Merci Jeanne Dossé, à tout à l'heure 15h pour un nouveau Flash.
Explorer de nouveaux mondes étranges.
Je sentais souffler sur ma nuque le vent fou de l'aventure.
Eh bien moi j'y vais, je plonge.
Le temps d'un bivouac.
C'est un minuscule territoire perché sur les hauts plateaux himalayens, un ancien royaume longtemps resté fermé aux étrangers. Bienvenue au Mustang. Depuis l'âge de 20 ans, l'écrivain et reporter Olivier Weber rêvait de se rendre dans ce petit Tibet intact, préservé de la répression chinoise. Il s'était juré d'aller y marcher un jour, une promesse qu'il a fini par tenir, poussé par un besoin vital de fuir le fracas du monde et surtout d'oublier l'horreur des guerres qu'il avait couvertes pendant 2 décennies. La fumée des champs de bataille, les visages des disparus le hantaient. Pour tenter d'échapper à ces cauchemars, l'ancien correspondant de guerre a donc renoué avec son rêve de jeunesse. Et il l'a fait en bonne compagnie, puisque c'est avec son ami Gérard Müller, surnommé l'aventurier aveugle, qu'il s'est lancé à travers les vallées perdues et les montagnes isolées du Mustang. Sur le chemin, les deux hommes ont échangé leurs perceptions et leurs sensations. Un périple jalonné de rencontres et de réflexions que l'écrivain voyageur raconte dans un livre intitulé « Au royaume de la lumière » aux éditions Plon dans la mythique collection Terre humaine. Cet après-midi, Olivier Weber nous emmène au fin fond de l'Himalaya à la découverte de cette contrée mythique qu'il a choisie pour renaître. Et en fin d'émission, nous retrouverons Éric Birloez pour une nouvelle odyssée savoureuse. Aujourd'hui, Éric nous emmènera sur les routes du hareng. Voilà pour les étapes du jour. Cette émission a été préparée par Claire Tesser. Elle est réalisée par Stéphanie Texier et David Leprince. Soyez les bienvenus dans notre bivouac.
France Inter. Le temps d'un bivouac. Daniel Fievé.
On quitte Johnson là.
Ouais, là on quitte Jomsom, on est sur la piste, on va monter sur le sentier qui est un peu plus haut là. Ouais. En route.
Ouais, c'est vraiment le début du trek. Ouais. Il y a beaucoup d'émotions, là on commence notre lente ascension.
Il faut démarrer tout doucement, aujourd'hui c'est une journée d'acclimatation, parce qu'on monte un peu plus haut, puis on redescend sur Cac Béni.
On est toujours encore sur la piste, on n'a pas pris la bille.
Toujours, on est sur le long de la Kaligandaki. Ouais. La Kaligandaki, la grosse rivière, est à gauche. La rivière elle-même n'est pas très large encore, là, mais le lit fait 800 mètres pratiquement. C'est énorme, creusé par les siècles, les millénaires. Une énorme vallée.
Bonjour Olivier Weber.
Bonjour Daniel Fievé.
Nous vous entendions avec votre ami Gérard Müller vous mettre en route aux portes de cet ancien royaume, le Mustang, au cœur de l'Himalaya. Il s'agit vraiment d'une contrée mythique, une enclave isolée. Où se trouve exactement le Mustang, Olivier Weber ?
Alors c'est au Népal, c'est adossé à la Chine, ça fait partie du Tibet historique on va dire, sauf que c'est séparé du reste du Tibet annexé par la Chine par une des barrières de l'Himalaya. Il faut, pour y aller depuis le Népal, on est au Népal, on va dire au nord-ouest de Katmandou, passer par une vallée qui est l'une des vallées les plus profondes au monde. Il y a 6500 mètres de tombant entre des sommets de 8000 mètres, le Dholagiri sur l'ouest et puis les Annapurna sur l'est. Donc c'est quand même assez protégé et comme vous le disiez, très enclavé.
Très enclavé et un tout petit territoire, hein, 45 km sur 45 km, un nombre d'habitants relativement
Oui, on est à 6000 habitants, donc c'est un ancien royaume qui a été rattaché au Népal, mais les habitants du Mustang, les Mustangais, enfin, qu'on appelle les Loas, se considèrent toujours comme les citoyens de la monarchie, et ouais. Ils considèrent toujours les princes comme des princes, et l'ancien souverain ou son héritier comme le roi. Donc on est dans une enclave, ou même un joyau, un écrin en Himalaya, qui est préservé de ses traditions, et pour l'instant encore de la mondialisation.
Mais c'est un endroit qui est resté longtemps interdit aux Occidentaux. C'est peut-être pour ça que ces traditions sont à ce point préservées. Pour quelles raisons était-il interdit aux Occidentaux jusqu'en 1992
Tout à fait, absolument. C'était ouvert aux étrangers à ce moment-là et auparavant, personne n'y était allé, sauf quelques rares aventuriers ou voyageurs, dont le tibétologue Michel Pessel, qui était français. Eh bien oui, pour quelles raisons? Parce que c'est un royaume interdit. C'est un petit peu comme Lhasa au temps d'Alexandra David Néel, encore au début du XXe siècle. Et ce qui a permis justement la préservation des traditions. Et puis, ça a été donc rattaché au Népal. Mais les traditions, l'histoire, l'enseignement du bouddhisme perdure. Et justement, comme vous le disiez, à l'abri de la tutelle des Chinois. Et même si l'ombre des Pékins est tout à côté.
Ouais. Alors, vous évoquiez cet ethnologue Michel Peissel qui, en 1964, a pu, lui, s'aventurer dans cette région après avoir obtenu des autorisations spéciales du Népal. Il racontait sa découverte sur France Culture en 1971.
Ça paraissait invraisemblable, mais en effet, en 1964, personne n'avait identifié le royaume de Mustang en tant qu'un royaume. Et c'est par hasard, on peut dire, un hasard voulu, que je désirais pénétrer dans les régions les plus hautes et les plus éloignées de l'Himalaya. Et c'est en fait au bout de 6 mois de négociation que j'ai obtenu du gouvernement népalais l'autorisation de partir dans ces régions frontalières. Et c'est une fois là que je me suis rendu compte que j'étais devant un royaume. Non pas devant un royaume mort, les vestiges d'un royaume, mais devant un royaume absolument intact, dont le roi même ignorait que la terre était ronde, mais dont il était un roi avec toutes les caractéristiques d'un royaume féodal, c'est-à-dire avec ses seigneurs, ses nobles, le roi a 5 palais, 23 villages, 3 villes, un territoire qui s'appelle le Mustang, dont j'ai défini les limites en marchant, en visitant toute l'étendue de ce pays, en y séjournant pendant 3 mois.
L'ethnologue Michel Peissel, il est passé dans des villages qu'aucun étranger n'avait traversés avant lui. Ça paraît incroyable, Olivier Weber, de se dire qu'en 1964, il y avait encore des royaumes totalement inconnus de l'Occident. C'est un rêve d'ethnologue.
C'est un rêve d'ethnologue, d'aventurier aussi, et bien sûr d'écrivain voyageur, que d'avoir cet écrin mythique préservé de beaucoup de choses. Et Michel Peissel l'a accompli. Il se trouve que moi, je trekkais, je faisais des expéditions à l'époque en Himalaya, à l'âge de 20 ans et quelques. Et c'était un rêve pour moi que d'aller derrière cette barre des Annapurna où je me trouvais, d'aller au Mustang, mais c'était interdit. Donc, et voilà. Et en même temps, c'est toujours préservé aujourd'hui. Pourquoi ? Parce que les habitants du Mustang, les Loa, donc, ne veulent pas subir le tourisme de masse, comme c'est le cas pour la capitale du Népal, Katmandou, et comme c'est le cas pour certains treks, dont le fameux tour des Annapurna qui passe pas très très loin. Donc il y a un permis de trekking qui est relativement élevé et cela permet de limiter le nombre de randonneurs. Alors c'est pas du tout une démarche élitiste, hein. Le Bhoutan qui est un autre petit royaume himalayen qui lui reste tout à fait indépendant, donc aux confins de l'Inde et de la Chine à l'est du Népal, donc lui aussi pratique des tarifs de trekking assez élevés pour limiter justement cette arrivée massive des, non pas des touristes, mais des randonneurs.
Alors vous l'avez dit, c'était un vieux rêve pour vous, ce Mustang, un rêve que vous aviez fait à l'âge de 20 ans. Il faut dire aussi que vous avez ce goût pour les zones enclavées, un goût qui vient de loin, parce que vous avez grandi dans un petit hameau perdu du Mercantour, vous avez été berger avant d'être grand reporter, vous avez eu cette ouverture au monde grâce aux lectures que vous avez faites quand vous étiez dans votre montagne, mais vous avez conservé ce goût pour les zones isolées, enclavées.
Oui, absolument, parce que c'est presque paradoxal, mais cela permet justement de dépasser les limites de l'enclave, une vallée, en l'occurrence pour mon Mercantour, de mon adolescence, quand j'ai commencé à travailler avant d'avoir la chance d'avoir des bourses et de pouvoir faire des études, mais je voulais justement dépasser ces frontières naturelles et sociales, et l'imaginaire vous aide à cela, ça vous aide à grandir, parce que la solitude, c'est bien, mais quand on est très jeune, on le supporte peut-être différemment. Et moi, j'ai grandi avec, je me suis construit avec, mais je me suis construit surtout avec des amis qui étaient des piliers, qui étaient donc des livres et des auteurs et surtout des personnages de romans. Et bon, bien sûr, ça m'a porté vers les autres contrées lointaines, mais bizarrement aussi, non, c'est même pas bizarrement, c'est presque inconsciemment, vers des zones de montagne et des zones enclavées. Je suis toujours surpris, curieux de pouvoir échanger avec les habitants du cru quand ils sont enclavés dans des zones, c'est pas du tout forcément des zones de guerre, au contraire. Ouais. Mais la guerre est une enclave aussi, bien sûr, on en est prisonnier. Et c'est pas la ligne de front, la ligne de feu qui m'intéresse, c'est plutôt ce qu'il y a derrière. Et puis, bien sûr, des endroits reculés comme le Mustang, parce que quel est le deal, quel est le rapport, la péréquation entre la volonté de préserver ses traditions, ses origines, son moi, ses outils familiaux, et l'ouverture au monde, qui peut être aussi une ouverture économique tout à fait légitime.
La guerre est aussi une enclave, cette phrase que vous venez de glisser dans votre explication. Vous avez parcouru aussi des terrains de guerre, de guérilla, des territoires à feu et à sang pendant une 20aine d'années en tant que correspondant de guerre. Et tout ce que vous aviez vu et vécu vous a rattrapé récemment, finalement. Il y a eu ce stress post-traumatique de guerre qui est revenu. Et c'est aussi ça qui vous a poussé à aller au Mustang. C'était un peu un échappatoire, ce territoire perdu, lointain.
Oui, absolument, échappatoire, et puis volonté de résilience. Alors, je ne sais pas si ça marchait totalement, mais quand on couvre en tant qu'écrivain, écrivain voyageur, grand reporter des guerres, on n'en sort pas indemne, parce qu'on est là pour parler des autres, on est là, que ce soit par le roman ou par le reportage du réel, hein, donc le récit documenté, on est là pour témoigner, pour rapporter, éventuellement pour dénoncer, mais surtout pour dire la parole des autres et la parole des victimes. Alors, il n'y a pas que des victimes, évidemment, surtout dans les reportages, mais il se trouve que la guerre vous marque, évidemment, plus que d'autres terrains de reportage ou de voyage. Et ça vous rattrape. Ça vous rattrape parce que ce sont des cauchemars. Alors, moi, j'ai la chance pour écrire des romans, donc ça m'a servi aussi un petit peu de thérapie, absolument d'exutoire. Mais voilà, encore pas plus tard qu'il y a quelques jours, je pense même cette nuit, voilà, c'est l'Afghanistan, c'est des cauchemars, parce que c'est... C'est peut-être pas tant la guerre, c'est pas ce qu'on a subi nous, que le fait d'avoir vu les civils. Et vous savez, depuis 1945, il y a eu à peu près 200 conflits dans le monde entier, à peu près. 94% des victimes de ces 200 conflits sont des civils. Et la proportion augmente, c'est-à-dire que les militaires ne tuent plus les militaires tuent des civils. Et quand on est grand reporter ou écrivain voyageur, bien, on voit quelquefois, nous, les victimes, avant même les militaires et avant même les humanitaires. Et d'ailleurs, on les voit simplement seuls, parce que les militaires souvent restent à l'arrière. C'est la fameuse doctrine de la politique du zéro mort, zéro death policy, comme on dit au Pentagone et dans d'autres états-majors. Donc oui, j'ai été rattrapé par ça, depuis des années d'ailleurs, et le livre m'a aidé. Enfin, l'écriture du livre m'a aidé, mais aussi ce voyage-là, comme voilà, oui, peut-être comme échappatoire.
Il a été reporté plusieurs fois, ce voyage salvateur pour vous. Et juste avant de partir, vous qui aviez traversé des territoires à feu et à sang, comme je le disais, c'est à Paris que vous avez eu un accident de vélo, mais apparemment carabiné, hein, parce que vous dites poumon perforé, clavicule en miettes, cage thoracique en morceaux. Et c'est dans cet état-là. Donc vous étiez aussi un peu diminué lorsque vous êtes parti au Mustang.
Oui, mais c'est l'accident le plus stupide. Mais à l'hôpital, évidemment, en réanimation, les médecins m'ont dit c'est toujours stupide un accident. Ça s'est passé pas très loin d'ici. Mais rassurez-vous, France Inter n'y est pour rien. Mais je rentrais surtout d'un voyage pour un documentaire chez les Indiens Tarahumaras, dans la montagne, la Sierra mexicaine. Les Indiens chers Antonin Artaud, avec Pierrot, le même montagnard qui m'a accompagné, qui a fait les images du documentaire. Et puis, on a été menacé de mort 3 fois par le cartel de Sinaloa, qui a quand même fait 100 000 morts au Mexique, donc c'est du sérieux, on était à 2000 mètres d'altitude, on est parti très vite et on s'est retiré. Puis en rentrant à Paris, j'ai pris mon vélo et donc renversé en bas, et je me dis, voilà, c'est le destin, au moins je suis en vie, c'est le principal, mais j'ai retardé le voyage, et puis le poumon est abîmé à cause des côtes qui avaient perforé le poumon, et encore une fois, il y a beaucoup plus grave, mais justement, ça a accéléré peut-être la demande de résilience, de voir autre chose. Le poumon a tenu, rassurez-vous, avec quelques médicaments à 5000 mètres, ça allait.
Ouais, il y avait ce doute, hein, quand même, en altitude, le poumon allait-il tenir? Et puis, vous partiez aussi avec votre ami, Gérard Müller, que l'on surnomme l'aventurier aveugle. Lui aussi avait des choses à régler entre ombre et lumière. Vous allez nous raconter comment s'est passée cette longue marche que vous vouliez apaisante et réparatrice sur les sentiers du Mustang. L'écrivain et grand reporter Olivier Weber nous emmène bivouaquer au cœur de l'Himalaya, au royaume de la lumière, cet après-midi sur France Inter.
Don't come,
C'était Mamgyal Lamo qui chantait Emma Gangri sur France Inter dans le temps d'un bivouac. Et merci à Djoubaka qui signe notre programmation musicale.
Incroyable, on la route à 4000 mètres.
Je vais te raconter le mythe d'ici. Au 8e siècle, quand le roi Trisong d'Étienne au Tibet essayait d'établir le premier monastère appelé Samya, il avait beaucoup de mal. Pendant la journée, il construisait le monastère, mais la nuit, il était constamment détruit par les forces du mal. Donc le roi a fini par appeler Guru Rinpoche d'Inde et lui a demandé de l'aider à reconstruire le monastère. Finalement, un des démons s'enfuit du Tibet vers le sud, au Mustang, et il est là, sur ce site-là, à Gami. On croit que le démon a été maîtrisé là-bas, et le sang du démon a été répandu sur les montagnes. Voilà pourquoi c'est rouge. Et à droite, là-bas, on voit les falaises bleues qui sont censées être les couleurs de la rate du démon.
La voix de Siwang, le guide qui vous a accompagné lors de votre périple au Mustang en Himalaya, Olivier Weber. Les reliefs et les couleurs du paysage ont inspiré les légendes locales. Décrivez-nous ces paysages que vous avez traversés, absolument sublimes.
Oui, alors c'est incroyable parce qu'on est souvent à 4000 mètres, 3800 mètres, on peut monter jusqu'à 5000 mètres. On a fini le voyage assez haut, d'ailleurs près de la frontière chinoise, donc c'est le bout de l'Himalaya. Et puis vous avez tout d'un coup des précipices vertigineux, vous avez des falaises en ocre, après c'est un grès, c'est un granit, donc en une journée vous voyez 3, 4, 5 paysages différents, ça c'est typique d'ailleurs du Mustang, et tout d'un coup par exemple des tubulures d'or comme ça sur 200 mètres de hauteur, et étagées, etc., très verticales évidemment, donc c'est assez étrange parce qu'on monte, on descend évidemment, alors quelquefois c'est compliqué, alors avec Gérard l'aventurier aveugle aussi, il fallait aussi en prendre soin, il y avait aussi un autre guide qui lui est vraiment un réfugié tibétain qui a franchi la frontière clandestine à l'âge de 20 ans pour venir du côté du Mustang. Et donc voilà, donc on a des paysages très variés qui vous permettent encore, avec la fatigue, avec le manque de souffle, faire travailler l'imagination.
Et avec Gérard, votre ami non-voyant, il y a des passages presque amusant dans votre livre, notamment à un moment vous passez, alors il y a des endroits vraiment vertigineux avec des passerelles suspendues à 200 mètres entre deux pics, avec les petites planches de bois qui se balancent, enfin on a le vertige pour vous, et lui vous demande de raconter, et en même temps il vous dit je suis pas mécontent d'être aveugle ce coup-là.
Et Gérard dit l'aventurier aveugle, donc souvent enfin je préfère ne pas voir, et c'est assez drôle parce qu'en même temps il a une mémoire incroyable, les aveugles sont souvent des hypermnésies, donc il savait exactement exactement à quelle altitude on était, quelle était la profondeur du gouffre, il l'avait entendu la veille, à quelle heure le soleil allait se lever le lendemain, c'était presque agaçant et ça donnait le lieu de pas mal de discussions humoristiques. Mais ce qui est intéressant aussi avec Gérard Müller, c'est un pharmacien qui a perdu la vue, progressivement atteint d'une pathologie qu'on appelle la rétinite pigmentaire, sauf que, au bout d'une dizaine de voyages au Népal, donc il avait vu de ses yeux vus, encore voyant ou un peu prévoyant, il commençait, la vue commençait à décliner,
il était
il avait
déjà
vu le Mustang, absolument. Donc c'était le but, on parlait de résilience tout à l'heure, mais c'était d'ailleurs plus davantage pour lui cette expérience-là de résilience que pour moi, et puis on s'est dit, on va partir ensemble, on se connaissait, on avait déjà voyagé en Sibérie en hivernal, parce qu'il a, il avait affronté aussi le froid par au moins 30 degrés au fin fond de la Sibérie, de la Baïkal, et là, j'étais censé être l'accompagnateur, lui expliquer les paysages, lui dire ce qu'il y avait, etc., et c'est exactement le contraire que s'est produit. Ouais.
Tout au long de votre marche, vous échangez avec Gérard Müller, vous lui décrivez les paysages, et lui vous dit ce qu'il perçoit.
Alors on monte le col de Samjungla à 4000 et quelques, et tu vois, c'est, je pense que c'est un royaume qui mérite un surnom, le Mustang. C'est non seulement un royaume oublié, mais c'est aussi un royaume de la lumière.
Oui, je suis sensible à cette lumière. Il y a quelque chose d'autre, c'est ce silence. Tu entends ce silence ? 40% d'oxygène en moins à 4000.
Et là, ça va être une récompense avec ce col qui est orné de plein de petits drapeaux de prière.
Tu les vois ?
Drapeaux tibétains de couleur.
Tu les vois ?
Qui sont devant. Et alors, ils sont pour l'instant symboliquement survolés par deux vautours. Et l'autre côté, plein sud, on a le massif des Annapurna qu'on ne voit pas à cause des nuages.
Extrait de votre film documentaire, Olivier Weber, Mustang, le royaume de la lumière, le royaume de lumière pour le film documentaire. C'est intéressant ce lien qui se noue entre vous et votre ami aveugle. Finalement, il perçoit des choses auxquelles vous faites peut-être moins attention.
Oui, absolument, parce que, bon, d'abord, comme il connaissait le Mustang, il extrapole, hein, donc quand on extrapole les données précédentes, on imagine aussi, il déduit, il anticipe, et puis bien sûr, les aveugles ont des sens qui sont exacerbés, qui sont hypertrophiés, j'allais dire. Donc il y a évidemment le goût, il y a l'odorat, il y a le toucher avec les pierres, etc. Il y avait quelquefois des sculptures ancestrales que nous montrait Tse Wang, notre guide et prince, membre de la famille royale. Et donc tout ça faisait une sorte de confiture d'appréhension du décor humain également. Et c'était extraordinaire parce que même si on ne parlait pas, Gérard sentait ce qui se passait dans une pièce, dans une auberge, dans un monastère, au bivouac, etc. Et donc voilà, ça a fait une sorte de décoction, j'allais dire, c'est d'un paysage, deux paysages au pluriel, dont humain, donc, qui se sont révélés pour moi. Donc c'était enrichissant et je crois qu'il m'a plus appris, lui, Gérard, que ce que j'ai lui pu apprendre avec l'explication de décors tangibles.
Ouais. Plus le voyage se déroule et moins vous décrivez, moins vous avez besoin de lui décrire ce qu'il y a autour de vous.
Oui, absolument, parce que ça devient presque naturel pour lui. Alors, par exemple, pour expliquer aux auditeurs comment ça se passe, qu'on va se dire, bon, on marche, l'expédition, elle nous a pris à peu près un mois sur deux ans de préparation, avec la préparation physique bien sûr, mais bon, comment il fait Gérard, maman, est-ce qu'il faut l'encorder ou pas, des passages compliqués en montagne, mais en fait il était, relié à Myingmar, ce réfugié tibétain dont je parlais tout à l'heure, un des trois guides, et donc soit il était relié à son sac à dos, le sac à dos de devant par une sorte de foulard d'écharpe tibétaine, soit il avait deux bâtons, et il se dirigeait au bruit, il savait cloc 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 si la chaussure de Myingmar, le guide, résonnait de telle manière, c'est une petite pierre qui avait tel écho, c'est qu'il était en montée, en descente, il arrivait à se repérer comme ça. Bon, très souvent, évidemment, on le rattachait avec cette écharpe ou cette corde à Myingmar, mais voilà, donc il y a une relative autonomie. À la halle, il fallait faire extrêmement attention aussi pour les chutes, etc. Il y a un moment, on est monté à cheval, il n'était pas du tout rassuré d'ailleurs, parce qu'il avait une perte d'équilibre. Ouais. C'était nouveau pour lui. Donc voilà, c'était des découvertes, et en même temps, c'est vrai, il arrivait peut-être aussi, je dirais, moralement, éthiquement, spirituellement, dans un autre royaume, parce qu'il n'est peut-être plus besoin d'accompagnateurs. On arrive après sur des hauts plateaux et il y a une sorte de libération mentale et psychique qui s'opère.
C'est ça, c'est un pèlerinage intérieur que vous avez effectué l'un et l'autre. Cette longue marche est propice à la méditation. C'est aussi ce que vous étiez venu chercher là.
Oui, absolument. Alors oui, pour ma part, pour celle de Gérard et moi aussi. Vous savez, la marche, quand vous marchez 6 heures, 7 heures, 8 heures par jour, on est dans la décantation, on ne pense plus de la même manière, on prend son souffle, on est fatigué bien sûr, on pense à ce qui va se passer le soir, où est-ce qu'on va dormir, est-ce qu'on va trouver encore un peu d'eau, etc. Et donc, voilà, la marche méditative vous permet de laisser retomber un petit peu les affres, la pensée ralentie, on se récite des poèmes, chacun évidemment a son propre mantra, et on réfléchit aussi à ce qu'on a vu ou entendu la veille, entendu pour l'aveugle, et c'était une très belle expérience aussi, parce que le livre en parle. Évidemment, on a plus de place que pour un documentaire, mais le documentaire aussi a essayé d'explorer cette question de la cécité. Qu'est-ce qui se passe ? Par exemple, Gérard m'a dit un jour, sur un autre voyage, c'était en Sibérie, la douleur, quand on est aveugle, parce qu'il n'est pas aveugle de naissance, on l'a compris, la douleur, c'est de plus se souvenir du visage des êtres aimés. Vous vous rendez compte ? C'est-à-dire, d'un coup, on peut se rappeler de ce que c'est que la couleur verte, ce que c'est qu'une montagne, mais le paysage humain, le visage de la femme aimée ou de l'homme aimé disparaît. Ça, c'est terrible.
Dans ce royaume de la lumière, vous avez été aussi fasciné par les zones obscures et énigmatiques, les nombreuses grottes taillées dans les parois rocheuses, des cavernes célestes qui reviennent vraiment à plusieurs reprises dans votre livre.
Les grottes du ciel hantaient mon esprit. Elle fascinait Tse Wang, qui se demandait lui aussi comment l'homme avait pu sculpter ainsi des versants si abrupts. Je revis plusieurs de ces caves célestes en chemin. Elles étaient tantôt châteaux forts enterrés, tantôt guérites pour sentinelles endurcies de la compassion. La plupart, privées de leurs échelles, cordes ou sentiers tailladés dans la roche, donnaient dans le vide. N'en déplaisait à Voltaire, le superflu ici n'était pas chose nécessaire. Les moines se contentaient d'un peu d'orge, d'une huile végétale pour prier Bouddha et du néant sidéral en contrebas. Le Mustang avait inventé le plus haut habitat du monde, en tout cas le plus étagé. Une ville étalée sur 1500 mètres de dénivelé selon mes repérages. Ces caves des hauteurs n'étaient pas des prisons, mais des antichambres de la liberté. Pendant des siècles, les moines y avaient contemplé la roche de l'intérieur. Ils ne voyaient rien et avait tout vu. Gérard versait dans le même mantra. Il portait son visage vers les grottes, ne distinguait rien et devinait tout. Il cherchait à pénétrer dans l'une de ces caves célestes pour mieux appréhender la lumière du dedans.
Extrait de votre livre « Au royaume de la lumière », Olivier Weber, lu par Eric Oswald. Pourquoi ces grottes vous ont-elles à ce point fasciné ?
Alors c'est un mystère, et je crois que le mystère va bien avec l'interdit de l'ancien royaume interdit. Il y avait un tabou, etc. Mais on ne connaît pas l'origine exacte de ces 20 000 grottes qui sont là. Tout d'un coup, vous imaginez, il y a une falaise comme ça, 2 000 mètres, et tout d'un coup, il y a des grottes, mais il n'y a pas d'échelle pour descendre, il n'y a pas de marche taillée dans la roche. On pense qu'il y avait effectivement des échelles de bois à un moment et des cordes, mais qui ont disparu. Donc pour y aller avec les archéologues, il faut descendre en rappel, être extrêmement bien équipé. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui sont passionnés d'histoire de l'art, mais aussi d'archéologie, mais aussi d'ethnologie, parce qu'il s'agit de la collection de Claude Lévi-Strauss et de Jean Mallory, Terre humaine, et je suis très très fier de l'avoir rejoint pour ce livre. Eh bien, je les invite aussi à s'intéresser à ce mystère, parce que c'est une énigme de l'archéologie et de l'ethnologie. Qu'est-ce que ces moines, mais pas que les moines, les habitants étaient faits perchés dans la montagne, comme ça, pendant des siècles et des siècles, bien sûr pour se protéger des envahisseurs, mais pourquoi si loin de tout cours d'eau, pourquoi si loin des plantations, etc. Donc bien sûr, il y avait le retrait spirituel des moines. Mmh. En tout cas, ce sont des grottes qui parlent quand certains archéologues, dont des Américains qu'on a croisés en bas de la vallée, arrive à percer quelques mystères dans ces grottes, eh bien on a tout d'un coup un pan de l'histoire du Tibet, du bouddhisme qui s'ouvre à nous.
Et puis ces grottes, ces zones d'ombre résonnent étrangement avec votre parcours plus psychologique, plus spirituel dans ces montagnes. À vous et à Gérard, le fait de vous sentir à ce moment-là en proie justement à la noirceur de certaines pensées. Et le fait d'aller dans ces grottes très sombres et en même temps fenêtres sur la lumière.
Oui, tout à fait, parce que moi je me retrouvais presque plongé dans la cécité, c'est le cas de le dire. J'étais encore plus en empathie, en compassion avec Gérard, qui est un très cher ami. Et puis voilà, en même temps, on va vers la lumière, parce qu'on est sur le toit du monde, donc c'est assez étrange et paradoxal. Comme le disait Nicolas Bouvier d'une partie un peu plus lointaine de l'Himalaya, qui s'appelle l'Hindoukouche, c'est qu'on croit être très loin du monde alors qu'on est au cœur du monde. Et bien sûr, il y a toujours des hommes qui ne sont pas très très loin dans la vallée. Nous, ce qu'on voulait, c'était aussi ne pas faire des sommets avec Pierrot, le montagnard qui m'accompagnait, parce qu'on ne voulait pas violer ces sommets qui restent sacrés. Il y a plein de sommets vierges, 6000, 7000 mètres.
Qui n'ont même pas de nom.
Et
oui.
Donc on peut donner le couloir Daniel Fievé ou la face Olivier Weber, mais ça, et peut-être qu'un jour on le fera ensemble. Et là, on ne voulait pas le faire, parce qu'on s'est dit, évidemment, ça va froisser cet esprit ancestral des Tibétains, des Lhoa, donc les habitants du Mustang. Et c'était mieux ainsi, on est resté dans les hautes vallées ou sur les plateaux. Et voilà, et ces grottes, donc, ces grottes et l'ascension vous amènent non seulement à la marche méditative dont je parlais tout à l'heure, mais à la spiritualité, qu'on soit laïque ou pas, qu'on soit croyant ou pas, quelque chose s'élève en vous, qui est très profond.
Nous poursuivons notre voyage avec vous, Olivier Weber, sur les sentiers du Mustang, au fin fond de l'Himalaya. Vous écoutez Le Temps d'un Bivouac sur France Inter.
Je ne sais plus qui j'aime, si c'est toi ou ton souvenir. J'ai tendance à ne retenir que le bon côté des choses. Dis-moi, elles étaient belles ces choses-là, suis-je la seule à penser à ça? Est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je ne sais plus si même tu mérites encore mes mots. Je crois que les tiens n'étaient pas ce qu'on nommerait de beau. Et si les tiens n'étaient plus, si tu ne parlais plus de moi, est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Je ne sais plus si même tu mérites encore mes mots. Je crois que les tiens n'étaient pas ce qu'on nommerait de beau. Et si les tiens n'étaient plus, si tu ne parlais plus de moi, est-ce que tu penses encore à moi? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore. Est-ce que tu vas bien? Est-ce que tu vas bien? Je t'aime encore.
Est-ce que tu vas bien? C'était Zao de Sagazan qui nous chantait la question.
France Inter, le temps d'un bivouac.
Moi, je suis toujours resté ici, même en hiver. Et quand les températures baissent, je bois beaucoup de thé. C'est du thé au beurre. On y ajoute du sel. Ça donne des forces.
D'accord.
Vas-y, goûte le thé au beurre.
Le thé au beurre de yak, vous y avez eu droit dans les montagnes du Mustang en Himalaya, Olivier Weber ?
Oui, absolument, je peux vous dire que c'est, voilà, c'est consistant, c'est bien. Thé au beurre de yak, salé en plus, et voilà, ça vous tient au corps, comme on dit. Et le yak, vous savez, c'est un peu tout, le yak, donc ce bœuf des montagnes, qui ne voit pas très bien d'ailleurs, hein, qui vit très souvent à l'état sauvage, qui est quelquefois aussi avec des pasteurs, des éleveurs. Eh bien, le yak, c'est à la fois le tracteur, c'est à la fois le moyen de transport, c'est à la fois la caisse d'épargne, c'est bien sûr aussi une réserve de lait. C'est un peu tout ça, donc c'est un animal sacré pour les Tibétains.
On avait aussi un aperçu de cet accueil que l'on réserve à l'étranger qui passe. Vous avez goûté ça au Mustang, ce royaume qui longtemps est resté fermé. Vous étiez bien accueilli ?
Oui, bien accueilli, il y a cette tradition d'échange qu'on retrouve dans les zones montagneuses, hein, en France aussi. Et puis, on est à la fois, comment dirais-je, pas individualiste, il faut pouvoir compter sur soi, mais d'abord sur les autres. Il y a toujours une entraide, il y a toujours une solidarité. Moi, j'ai vu ça en Afghanistan, Kurdistan, dans les Alpes ou ailleurs. Là, voilà, il y a une éthique, il y a un esprit de montagne qui fait qu'on est d'autant mieux soi-même qu'on est aidé ou qu'on aide les autres.
Alors, vous avez eu l'occasion, parmi les nombreuses rencontres que vous avez faites au détour des sentiers, de croiser la route d'un soldat résistant, le dernier résistant qui a lutté contre la Chine et qui a préservé l'autonomie pendant longtemps du Tibet.
Oui, oui, absolument, dans un petit village, Gami, à 4000 mètres, Imjung, qui a plus de 80 ans, qui est le dernier Kampa, donc le guerrier rose de la rébellion du Kham. Vous savez, en fait, c'était les Tibétains qui se battaient contre les Chinois dans les années 60 et à peine le début des années 70, aidés un moment par les CIA, mais qu'est-ce qu'ils étaient ? C'était des cavaliers de montagne juchés sur des petits chevaux avec des vieux tromblons et des fusils contre des tanks, des tanks chinois qui étaient pratiquement des tanks soviétiques. Et bien évidemment, ça a tourné court, d'autant plus qu'à un moment, Nixon décide de rencontrer Mao Tse-tung. Et là, donc début des années 70, c'est la fin. Et certains de ces chefs de la rébellion se sont suicidés, sont jetés dans les falaises. Et Imjun, c'est le dernier. Voilà, c'est le dernier. On l'a retrouvé dans la montagne grâce à notre ami et guide Tse-wang, qui est le prince du Mustang.
Oui, alors, vous l'avez évoqué, mais on n'a pas développé ça. Mais votre guide, c'est un prince, un ancien prince, c'est-à-dire qu'il appartient à la famille royale qui a régné sur ce royaume jusqu'en 1992. Voilà. Il n'a plus aujourd'hui aucun pouvoir, mais il a gardé de son aura. Ce qui fait que quand vous traversiez les villages, vous aviez un accueil assez particulier.
Ah oui, c'était incroyable. C'était à la fois un guide de haute montagne, comme on peut en voir dans les montagnes des Alpes, qui connaît toute la technique, mais aussi l'histoire du Tibet et du Mustang. Puis en même temps, le prince considéré comme tel encore par, je veux dire, ses sujets, en tout cas par les citoyens du Mustang, les habitants du Mustang. Et en fait, tout d'un coup, il y a une fête qui est la fête qui s'appelle du cheval Yartung, qui est la fête des moissons et donc de la fin de l'été. Parce que finalement, il n'y a pas 36 saisons, il y a l'hiver, puis il y a le reste, j'avais dit, l'hiver arrive très vite. Et tout d'un coup, donc, Tse-wang monte sur un cheval. D'abord, il y a toute une cérémonie dans son village, à Tsarong, donc 4000 mètres, au bord d'une falaise, c'est très beau, il y a un petit monastère à côté, puis paf, il y a un tombant, survolé par les vautours. Les vautours, c'est important, c'est les nettoyeurs. Parce que les corps sont exposés à passer de bois, donc on ne brûle pas les corps, on les offre aux vautours lorsqu'ils sont déchardés, lorsque les gens meurent. Et Tse-wang, tout d'un coup, se met en habit traditionnel, une tunique magnifique en soie, juchée sur un cheval, puis monte dans le monastère de Le Guécart, tout ça, on l'a suivi dans la montagne, c'est très beau. Et oui, on pratique presque le baise-main. Alors c'est à la fois très, comment dirais-je, amical, ses relations avec les autres habitants du Mustang, puis en même temps, il y a beaucoup de déférence. Ouais. C'est le membre de la famille royale, quand même.
On entend les chants de cette cérémonie à laquelle vous avez assisté. Ça montre aussi à quel point les traditions, les croyances, tout ça est encore très présent au Mustang.
Oui, absolument, et j'étais surpris même de voir beaucoup de jeunes, d'abord habillés en costume traditionnel, puis deuxièmement, danser, perpétuer ces traditions ancestrales tibétaines. Et ils savent très bien qu'il y a un grand voisin qui est la Chine, qui juste derrière les montagnes de 6000-7000 mètres. Et le Tibet chinois, entre guillemets, était annexé, et avec la fuite du Dalai Lama, en particulier de Lhasa. Et les habitants du Mustang savent qu'ils sont les gardiens du temple, j'allais dire, hein, comme évidemment les Bhoutanais, les habitants du Bhoutan. Et donc pour eux, c'est très très important de préserver et la langue, et les traditions, et bien sûr l'enseignement du bouddhisme dans les monastères.
C'est toute la question de savoir ce que va devenir ce petit territoire dans les années à venir. Michel Peissel, l'ethnologue dont nous parlions en début d'émission, qui a fait découvrir ce royaume à l'Occident en 1964, était déjà interrogé à ce sujet en 1971 sur France Culture.
Je crois que malheureusement, le Mustang est voué à disparaître plus rapidement par le progrès et l'introduction du progrès. Le jour où on pourra accéder par route, ce qui n'est pas encore arrivé.
Michel Pessel, est-ce que vous avez la conscience tranquille? Moi, pas du tout. La conscience tranquille, après avoir écrit ce livre qui révèle l'existence de ce royaume, et que nous en parlions, comme ça, sur les ondes, alors qu'il aurait pu échapper au fléau du XXe siècle.
J'espère que d'en parler n'est pas trop un fléau, mais il est certain que c'est toujours dommage d'aller visiter un endroit et se dire qu'on est le premier, puis après on dit que l'endroit n'est plus jamais le même. D'un autre côté, pour moi-même, c'est un peu égoïste, j'en tire d'autres avantages, puisque moi-même, depuis mon retour, je ne suis plus jamais non plus le même d'avoir pu connaître un pays tel que le Moustan.
La question vous a-t-elle traversé l'esprit, Olivier Weber? Faut-il parler de ce territoire reculé et comment faut-il en parler pour qu'il reste ce qu'il est encore
oui,
aujourd'hui?
Oui, il faut en parler. C'est pas Alexandra David-Néel qui, au début du XXe siècle, a permis ensuite l'invasion chinoise de Lhasa, la capitale du Tibet, où il y a plus de Han, donc l'ethnie majoritaire en Chine, que de Tibétains au jour d'aujourd'hui. Et Michel Pessel a bien fait d'en parler. Au contraire, ce sont des alertes pour dire attention, il y a des joyaux, il y a des temples, on va dire, encore préservés de l'invasion mondialisatrice. Et il faut parler de la perpétuation de ces traditions. Et c'est pour ça que j'ai voulu faire ce livre dans la collection Terre humaine, qui est une collection chère à mon cœur, parce que c'est celle de Lévi-Strauss et Jean Mallory, ouais. des ethnologues, parce qu'on est à la fois, comme je disais tout à l'heure, loin du monde, sur le toit du monde, en même temps au cœur du monde. Vous avez l'un des plus grands, enfin le géant de la planète qui est à côté de la Chine, et donc on a un exemple de ce que c'est que l'échange économique aujourd'hui, que la tentative d'impérialisme de grande puissance. Et donc le Tibet a été annexé par la Chine, et le Mustang est en passe d'être annexé, non pas par l'invasion des gardes rouges, mais par un autre colonialisme sans les gardes rouges, avec les commerçants, avec les négociants et les nouvelles routes de la soie, chères au président chinois.
Ouais, et d'ailleurs, Michel Pessel disait, cet ethnologue disait, ça va changer quand une route mènera jusqu'au Mustang, parce que quand il y est allé, il n'y avait pas de route. Aujourd'hui, il y a une route, un semblant de route, une piste. Ouais. Ça y est, les voitures peuvent pénétrer le Mustang. Est-ce que ça va changer des choses?
Absolument. D'ailleurs, c'est une piste qui se construit, non pas de jour en jour, mais d'été en été, parce qu'évidemment, l'hiver, on s'arrête. Et elle part des plaines, en fait, des hautes vallées, des basses vallées, pardon, de Jomsom, pour monter vers la frontière chinoise, à 5500 mètres, qui est une frontière désertée, sauf qu'il y a quand même des caméras côté chinois pour empêcher que les Tibétains fuient leur territoire et se réfugient au Népal. Et le jour où la piste sera totalement finie, qu'elle aura atteint la frontière chinoise, on peut penser que les barrières vont s'ouvrir et que les postes frontières vont être créés. Et donc, le commerce va remplacer l'annexion manu militari. Et c'est intéressant parce que les Mustangais, les Loa en sont conscients. Il y a tout un challenge dans le film. On voit une jeune fille de 18 ans, Tara, qui revient de ses études à Katmandou pour aider sa mère une partie de l'année. Et elle dit, mais moi j'en veux pas. On n'en veut pas, nous, de la roue, de la piste, parce que ça veut dire que c'est la fin de nos traditions. Et je trouvais ça très courageux, surtout qu'elle tenait une ferme. Enfin, ses parents tenaient une petite ferme. Et ils vivaient un petit peu comme cela de l'arrivée de quelques trekkers randonneurs et de quelques Tibétains. Mais voilà, donc il y a un vrai challenge, il y a un vrai défi. C'est le débat d'aujourd'hui, quoi. C'est la mondialisation ou pas, est-ce qu'il faut s'ouvrir ou pas? C'est légitime de s'ouvrir. Ouais. Et en même temps, là, on sait qu'on va perdre son âme. Ouais. Et on sait qu'on va être annexé de facto. Donc il y a tout ce débat-là que je voulais raconter dans le livre. Aussi avec de l'humour, parce qu'il y a beaucoup de personnages. Il y a des gens que je rencontre qui sont incroyables de la vie de tous les jours. Mais en même temps, qui se battent pour cela, pour ces racines.
Toutes ces réflexions sont dans votre ouvrage et sur vous, Olivier Weber. Quel effet ce voyage a-t-il eu? Puisque vous y alliez aussi pour vous retrouver, pour renaître, pour essayer d'oublier ces cauchemars des guerres que vous aviez couvertes, est-ce que ça a eu l'effet escompté?
Oui, absolument. Bah, d'abord, ça vous lave de pas mal de choses, non pas de regrets, mais peut-être de souvenirs un peu noirs. Puis deuxièmement, ce contact avec les Loa, donc les habitants du Mustang, qui sont à la fois qui vivent dans un endroit très reculé, en même temps qui se posent des questions qu'on se pose nous tous sur le climat. Vous savez, même le Mustang souffre justement de l'assèchement, de la sécheresse, de la raréfaction de l'approvisionnement en eau. D'ailleurs, Tse Wang, le prince, nous parlait du fait que la famille royale était en train de faire déménager deux villages sur des terres royales, parce que les deux villages n'avaient plus d'eau, alors qu'on est en bas des glaciers. C'est incroyable. Et donc, ça m'a transformé. Je crois qu'on ne rentre pas indemne de ce genre de voyage. Enfin, on en sort grandi spirituellement, mais aussi toujours avec l'envie de témoigner, soit par le roman, soit par le récit de voyage, parce qu'on est dans la compassion, on est dans l'empathie avec ses frères, avec ses montagnards.
Témoigner, c'est ce que vous avez fait, Olivier Weber, avec votre livre « Au royaume de la lumière » aux éditions Plomb, dans la très belle collection Terre humaine. Un grand merci à vous, Olivier Weber.
Merci à vous, Daniel Fievé, et merci à l'équipe.
Restez avec nous. Dans un instant, Éric Birloez nous emmène sur les routes du Haran.
Between spine and fate, the music's so unromantic. Our eyeballs are red and dry. It doesn't have anything to do with anything. The vibes aren't right. No love. We don't know how it happened. Everything we
Matt Berninger nous chantait No Love sur France Inter.
Sens-moi ça, ça sent bon. Ça sent le jardin, ça sent les quatre saisons, ça sent la terre.
Et pour la dernière fois de l'été, nous retrouvons Éric Birloez. Bonjour Éric.
Bonjour Daniel.
Vous êtes sociologue de l'alimentation. Comme tous les jeudis en fin d'émission, vous nous emmenez sur la piste d'un aliment qui a fait du chemin pour arriver sur nos tables. Aujourd'hui, l'aliment en question vient de la mer.
Oui, au Moyen-Âge d'ailleurs, on le surnommait le blé de la mer. Il s'agit du hareng. Ce petit poisson était autrefois un aliment essentiel pour les gens du peuple, et pas seulement lors des jours maigres où l'Église imposait l'abstinence de viande.
Et alors ce hareng, qu'avait-il de particulier ?
Eh bien, comme il est très prolifique, il était très abondant et donc accessible financièrement aux petites gens. Par ailleurs, le hareng n'aime que les voyages de groupe. Il se déplace en bande, plusieurs millions d'individus bien serrés les uns contre les autres. On a comparé ça à une armée en mouvement. Ouais. Le mot « armée » en allemand se dit « Heer », qui a la même racine que « hareng ».
Ah oui.
Un autre atout du hareng, c'est qu'on peut le conserver plusieurs mois si on l'a salé ou fumé, ou les deux. Ouais. On pouvait donc en manger, même dans les provinces éloignées des côtes. Et en période de disette, c'était souvent la principale denrée alimentaire qui était distribuée dans les villes par les autorités locales et les œuvres de charité.
Et comment se passait la pêche au hareng ?
Eh bien, dès l'an 1000, elle était pratiquée par les ports français de la Manche et de la mer du Nord, en particulier Boulogne-sur-Mer, Dieppe, Fécamp. Mmh. La saison de pêche débutait à l'automne, lorsque les poissons se rapprochaient des côtes pour frayer, c'est-à-dire pour se reproduire. Ouais. Mais dès qu'ils étaient pêchés, les harengs devaient être rapidement débarqués dans le port le plus proche. On mettait de côté une partie pour être vendu en frais. Le reste était salé et ou fumé afin de pouvoir être conservé.
Mais à la fin du Moyen-Âge, les quantités pêchées n'ont plus été suffisantes pour répondre à une demande qui ne cessait d'augmenter.
C'est vrai, mais heureusement, au milieu du XIVe siècle, une innovation est introduite, le caquage des harengs.
Qu'est-ce que c'est que ça ?
Alors, la technique, elle consistait à traiter le poisson à bord du bateau, okay. Ce qui évitait tous ces allers-retours incessants entre la zone de pêche et le port où le poisson frais était salé ou fumé. Alors, en quoi consistait ce caquage ? Dès qu'ils étaient déversés sur le pont du bateau, les harengs étaient vidés de leurs viscères, mmh. Et puis bien tassés dans des barriques, en alternance avec des couches de sel. Ah oui, en néerlandais, barrique se dit cac, d'où hareng, caquet, caquage. Ah oui. Et une saumure se formait naturellement. Elle protégeait les poissons des contaminations bactériennes et l'empêchait de se dessécher. Les marins pêcheurs pouvaient donc rester sur le lieu de pêche jusqu'à ce que leur bateau soit plein à ras-bord, mmh. Ce qui permettait, en un temps donné, de pêcher davantage de harengs.
Et alors, ces mots, hein, caquet, caquage, ont donné par la suite naissance à des expressions ?
Oui, les voyageurs qui se déplaçaient en diligence ne disaient pas comme nous, ben nous sommes serrés comme des sardines dans ce RER, par okay. exemple, mais nous sommes encaqués comme des harengs.
Ah oui, l'expression n'est pas vraiment restée. Hein,
non,
depuis.
Et il y a une autre expression, la caque sent toujours le hareng. Donc la caque, le taux d'eau, la barrique, sent toujours le hareng. Manière imagée de dire qu'une personne de milieu populaire, qui a réussi socialement, ah oui. Eh bien elle garde toujours quelque chose de ses origines modestes dans son langage, sa manière de se tenir à table, etc.
Ouais, charmant. Alors que devenaient les harengs une fois au port ?
Eh bien les harengs frais débarqués à Dieppe et à Boulogne étaient acheminés tous les jours jusqu'à Paris. À partir du XIIIe siècle, ils étaient transportés par des attelages de 6 à 12 chevaux le long du chemin de la Barrée. Le parcours était ponctué, non pas de bivouac, mais d'étapes qui permettaient de renouveler 5 ou 6 fois les chevaux. Et au petit matin, ils entraient dans la capitale par la rue du Faubourg Poissonnière.
Ah, d'accord.
Lorsqu'ils étaient fumés et salés, les harengs pouvaient être transportés sur de très longues distances, jusqu'en Italie, en Espagne, au Portugal.
Et le hareng n'a pas seulement contribué à la prospérité des ports français.
Non, il a aussi fait la fortune de certains états et grandes villes du nord de l'Europe, comme Copenhague, Bergen, Amsterdam. L'enjeu commercial était énorme. Mmh. C'est pourquoi des conflits, les guerres du hareng, éclataient régulièrement entre les nations qui en faisaient le commerce.
Et un autre poisson, jadis très important, était la morue.
Oui, pour être précis, le cabillaud, hein, qui une fois salé, prend le nom de morue. Il est vrai qu'au Moyen-Âge, on pêchait également beaucoup le cabillaud dans la mer du Nord et au large de l'Islande. Conséquence, les stocks se sont trouvés surexploités. Mais heureusement, à la fin du XVe siècle, des explorateurs ont signalé la présence d'immenses bancs de cabillaud à proximité de Terre-Neuve. La grande pêche, comme on l'appelait, est alors devenue une activité économique de premier plan pour de nombreux ports français. Mm-hmm. Les marins de Paimpol, dans les côtes d'Armor, eux font partie de ceux qui resteront fidèles à leur lieu de pêche islandais. Bah, on connaît le célèbre roman de Pierre Loti, paru en 1886, Pêcheur d'Islande.
Et c'était un métier assez épouvantable, hein, non ?
Ah oui, les marins partaient en février, ils ne revenaient qu'au début de l'automne et on disait qu'ils ne voyaient jamais les feuilles des arbres de leur pays natal. Mmh. Pour leurs épouses, leurs mères, ce très long de l'absence était aussi un temps d'inquiétude car beaucoup d'hommes ne revenaient pas. À bord, les conditions de vie étaient extrêmement rudes à cause du froid, du vent, de l'humidité, de la promiscuité, du travail harassant et très dangereux. Des marins tombaient à l'eau suite à un accident, un naufrage, une collision avec un iceberg. D'autres voyaient leurs blessures s'infecter ou étaient atteints de scorbut. Mais la situation la plus effroyable était celle des enfants. Au XVIe et XVIIe siècle, on embarquait des mousses âgées d'à peine 8 ans.
Eh bien, dis donc, merci Éric Birloez. Je rappelle que vous avez publié Le Pain, une croustillante histoire aux éditions Quae. Et je signale également Histoire de l'alimentation des Français aux éditions Ouest France. Un grand merci à vous Éric et à jeudi prochain.
À bientôt Daniel.
pouvez réécouter cette émission et les précédents épisodes, y compris ceux des saisons précédentes, en vous rendant sur la page du Temps d'un Bivouac sur franceinter.fr ou en utilisant l'application Radio France. Et merci, amis auditrices et auditeurs, pour les messages que vous nous laissez sur la page de l'émission, sur franceinter.fr et sur nos pages Instagram et Facebook. Le Temps d'un Bivouac replie sa tente. À demain pour de nouvelles aventures.